Bien, nous avons notre cours de disciples et je vous ai parlé à plusieurs reprises de la foi, qu'il y a la nécessité d'avoir la foi, que ce n'est pas une confession de foi, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en train d'énumérer toutes des lois et des règles ou des articles d'un code, mais nous parlons de la confession de foi, c'est-à-dire ce que nous croyons, la réalité de ce que nous croyons. Donc, c'est une chose que je tiens à souligner encore une fois, c'est la nécessité d'avoir une foi réelle en Dieu. Non pas simplement une croyance en Dieu, mais une foi en Dieu. Donc, nous devons passer d'un article de 4 pages de confession de foi à une réalité vivante dans notre vie. Et cela est très important. Si nous ne passons pas par ce chemin-là, eh bien, nous avons manqué l'essentiel. Nous sommes les adeptes d'une confession de foi. Nous avons adopté des règles. Et ces règles, eh bien, elles sont bonnes. Et nous avons la doctrine, une bonne doctrine, et je le crois, et ma doctrine est ce qu'on appelle une doctrine fondamentaliste, et c'est vrai, j'y tiens particulièrement, mais je désire placer ma foi dans cette doctrine. Non pas simplement la connaître comme d'une manière morte, c'est-à-dire d'une manière intellectuelle, mais d'une manière vivante, et avec énergie, avec force et le désir de vraiment croire ce qu'il y a dans ces points de la confession de foi. Alors, nous sommes au premier point de la confession de foi, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire que nous croyons à l'existence de Dieu, nous croyons qu'il y a un Dieu, et que ce Dieu-là règne sur toute chose, qu'il est le maître de toute chose, que rien ne se passe sur cette terre hors de son contrôle, hors de ce qu'il permet. Ça ne veut pas dire que Dieu est dans le mal et qu'il a prévu le mal ou qu'il y a une origine de la part de Dieu dans le mal, mais Dieu permet que les choses arrivent de cette manière-là. Et donc notre Dieu est bon, il est parfait, il est au-delà de toute imagination humaine. C'est donc très très important d'avoir une bonne connaissance de Dieu et d'apprendre à le connaître. Quand Paul parlait aux Corinthiens, je n'ai pas le verset sous les yeux, mais il me vient à l'esprit, il disait « Certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. » Et beaucoup de chrétiens, on pourrait adresser cette parole, ce reproche, « Vous ne connaissez pas Dieu. » C'est-à-dire qu'il y a une connaissance intellectuelle, mais une connaissance vivante, une relation personnelle avec le vrai Dieu, cette connaissance. Vous savez que Dieu est amour parce que vous avez expérimenté qu'il vous aime. Vous savez que Dieu est fidèle et qu'il accomplit ses promesses parce que vous avez expérimenté dans votre vie chrétienne que les promesses de Dieu sont aussi pour vous et vous en avez vu l'efficace dans votre vie chrétienne. Beaucoup de gens disent Dieu est amour. Voilà, ça peut être une pensée philosophique, ça peut être une profession de foi, ça peut être beaucoup de choses. Mais dans la réalité de leur vie chrétienne, ils ignorent ce que c'est que Dieu est amour. Voilà, ça c'est ce que je veux souligner particulièrement. Une autre chose, c'est qu'à côté du vrai Dieu, beaucoup de chrétiens ont des faux dieux. Ça aussi, c'est une chose qui est à souligner et à répéter de nouveau, c'est-à-dire que beaucoup de chrétiens ont pour Dieu l'argent, ont pour Dieu leur maison, ont pour Dieu leur voiture, ont pour Dieu leur travail, ont pour Dieu leur accession à une certaine position sociale. Certains, même, c'est leur famille qui est leur Dieu. Alors, il n'y a pas un péché que l'on peut nommer d'une manière que c'est un péché, mais ce sont de fausses adorations. Il y a des personnes qui se prosternent devant d'autres dieux, qui ne sont pas le vrai Dieu. C'est pour cela que nous devons apprendre que le vrai Dieu doit avoir la première place dans notre vie. toute chose qui, même légitime, qui prend la place de Dieu, eh bien, devient un culte à un faux Dieu. Et il faut bien savoir cela, parce que beaucoup de chrétiens sont dans l'illusion quant à leur foi chrétienne, à leur vie chrétienne, parce qu'il y a des multitudes de choses qui dominent dans leur vie et qui sont de véritables divinités. Tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie, c'est un faux Dieu. Tout ce qui vous dites, je ne vais pas aller au culte aujourd'hui parce qu'il y a une brocante où on vend des machins et des trucs. Je connais des chrétiens comme ça. Hein. Je cite le cas parce que ils le font. C'est le dimanche matin, eh bien, ils ne sont pas au culte. Parce que dans ce village-là, il y a une brocante ou une vide-grenier, comme vous voudrez, et ils tiennent à y aller, et alors ils sont en train de regarder les choses et de convoiter. Mais vous dites, ils n'ont pas commis un péché, ils ne sont pas dans l'adultère, ils ne sont pas dans la débauche, ils ne sont pas ivres, ils ne sont pas... Mais ils adorent un faux Dieu. Le vrai Dieu ne mérite pas qu'ils s'arrêtent dans leur semaine pour un jour spécial qui est mis à part pour Dieu, spécialement pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et il y a des chrétiens dans le passé qui, quand Dieu les a repris dans leur manière d'agir, qui se sont humiliés publiquement dans l'église pour avoir adoré quelqu'un d'autre le dimanche, de ne pas avoir adoré le vrai Dieu le dimanche, de ne pas avoir consacré cette journée à Dieu. C'est quelque chose donc de très très important de savoir qui est Dieu dans notre vie. Et parfois, eh bien, je peux vous dire, il faut s'arrêter, prendre du temps et se poser la question, où en suis-je par rapport à Dieu? Est-ce que je rends vraiment un culte à Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que c'est vraiment de tout mon cœur que je suis à l'église? Ou est-ce que je vais à l'église par habitude? Où est-ce que je fais mes moments de prière, mes lectures bibliques, parce que j'ai toujours fait comme ça, ou parce que mes parents m'ont enseigné à faire cette action-là. Il faut aller plus loin que certains rites. Il faut être un chrétien. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui vit sa vie chrétienne et qui la vit profondément. Ce n'est pas donc une personne qui vit superficiellement sa vie chrétienne, ou qui vit en surface sa vie chrétienne, ou qui vit sa vie chrétienne d'une manière visible. Et parce qu'il y a des personnes, quand elles viennent au culte, alors tout le monde serre la main et est gentil, vraiment, mais il ne faut pas être chez eux. Hein, parce qu'alors là, ces personnes-là se déchaînent, et il y a même un proverbe en français qui dit que c'est surtout sur des dames, hein, très très dévotes, très pieuses, qui vont à la messe tous les jours. Il y avait une messe tous les jours. Eh bien, on dit que ce sont des grenouilles de bénitier. Elles sont des anges à l'église et des démons à la maison. Et je me rappelle même de quelqu'un qui faisait la réflexion et il disait celui qui se mariera avec cette femme, eh bien, il fera son purgatoire sur la terre. C'est peut-être pas traduisible en anglais, mais c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. Il y a des personnes qui ont une vie chrétienne de surface, en façade, mais en profondeur, il n'y a pas le culte au vrai Dieu. Et donc, je prends la peine de passer beaucoup de temps, et peut-être trois études sur la confession de foi, particulièrement à cause de cela, parce que on est dans la plupart du temps, nous sommes dans l'illusion sur notre manière d'être et notre manière de vivre la vie chrétienne. Il faut se poser les questions, et les vraies questions, et se dire, qu'est-ce que je fais dans ma vie chrétienne? Qu'est-ce que je suis? Jusqu'à quel point je suis chrétien? Est-ce que je suis chrétien seulement le dimanche, mais est-ce que les autres jours de la semaine, si un frère en Christ ou une sœur me rencontrait dans la rue, eh bien, se demanderait, mais c'est bien lui? C'est bien elle? C'est parce qu'on pourrait se poser parfois la question. Notre vie chrétienne n'est pas conséquente. Nous sommes chrétiens à certains moments Et à d'autres moments, eh bien, nous sommes exactement comme les gens du monde. Nous avons les mêmes pensées que le monde. Nous adorons les mêmes choses que le monde. Nous parlons des mêmes choses que le monde. Nous sommes captivés par les mêmes choses que le monde. Je me rappelle de chrétiens qui pouvaient vous parler du dernier match de foot. Hein. Ils connaissent tout sur le foot. Mais moi, je peux vous dire, ce sport-là est un culte. C'est un vrai culte. Avec ses credos, avec ses confessions de foi, avec son intransigeance, son fanatisme, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai pris cet exemple aussi la semaine dernière, mais il y a vous mettez tout ce qui est négatif sur une religion et vous le transcrivez dans le foot et vous verrez c'est exactement les mêmes choses. Vous pouvez parler du foot comme d'une religion, comme d'un culte. Et même certains mouvements politiques sont exactement dans cette manière-là. Mon père parlait avec un de ses amis qui était d'un mouvement que je ne citerai pas, et mouvement politique. Et il lui a dit, mais tu as quand même le droit de penser, de ne pas être d'accord. Ah non, non, même penser, c'est négativement sur ce... C'est... Non, non, c'est... non, ça ne se fait pas. Vous vous rendez compte, c'est même dans les pensées, on est jugé et condamné. Et vous savez qu'il n'y a aucun tribunal humain qui juge et qui condamne sur des sentiments ou sur des pensées. On juge sur des faits, sur des actions accomplies, passées. Ça fait partie de la loi et de la justice humaine. Il n'y a que Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Et quand un mouvement juge les pensées et les sentiments, alors, et c'est une religion, une vraie religion, et les chefs de ce mouvement se prennent pour Dieu. Ils sont de vraies divinités. Ils attendent le même culte que l'on rend à Dieu. Et même si ce sont des mouvements athées et des mouvements de toutes sortes. Hein. Donc c'est très important de savoir que notre vie chrétienne doit être vécue d'une manière digne de notre Dieu. Et on vit la vie chrétienne digne de Dieu et digne de l'espérance que nous avons en Dieu, de notre attente en Dieu. C'est très important. Nous devons parfois faire un arrêt dans notre vie chrétienne, dans notre histoire humaine, et de se dire où j'en suis spirituellement. Quelle est ma relation, ma vraie relation vis-à-vis de Dieu? Est-ce que Dieu prend toute la place dans ma vie? Ou est-ce que je l'ai mis de côté dans ma vie? Est-ce qu'il y a telle chose ou telle chose ou telle chose qui prend la première place dans ma vie? C'est très important de savoir quel Dieu vous adorez. J'arrive à une autre chose que vous trouvez dans la Bible qui s'appelle la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. C'est très lié avec tout ce que j'ai dit précédemment. La crainte de Dieu, c'est ce saint respect de Dieu. On connaît Dieu pour ce qu'il est et on a du respect pour lui. Et on parle de lui avec respect. Il y a des personnes qui sont toujours en train de parler de Dieu. Et ils parlent n'importe comment, à droite, à gauche, dans tous les sens. C'est vrai ce qu'ils disent, mais c'est trop léger. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de respect sur Dieu. On parle de Dieu comme on parle d'un fait divers ou de n'importe quoi d'autre. Mais quand nous parlons de Dieu, nous parlons du vrai Dieu. Nous parlons du Dieu tout-puissant. Nous parlons du Dieu éternel, du Dieu par qui toute chose existe et qui maintient toute chose par sa parole puissante. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas un sujet de conversation banal. C'est pour cela que dans les 10 commandements, il est dit « Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain ». C'est sans, on dit, mais je n'ai pas dit certains jurons où on met le nom de Dieu. D'accord, mais on parle parfois si légèrement de Dieu que l'on prend le nom de Dieu en vain. C'est pas parce que vous ne prononcez pas de jurons où il y a le nom de Dieu que vous n'avez pas pris le nom de Dieu en vain. Il y a un respect de Dieu qui fait que on on agit et on est d'une certaine manière parce que il y a cette foi, cette croyance dans le Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est, je ne suis pas adepte du Dieu Tout-Puissant, mais c'est mon Dieu. C'est celui qui domine dans ma vie. C'est celui par lequel je suis, celui par lequel je suis sauvé, celui qui est mon espérance, celui qui est ma joie sur cette terre, celui qui est tout ce dont j'ai besoin. Il ne me manque rien quand je l'ai lui. Quand je ne l'ai pas lui, il me manque tout. C'est, il y a cette lumière dans laquelle nous vivons quand nous marchons avec Dieu. Et c'est cela que j'appelle la crainte de l'Éternel. Il y a des personnes, eh bien, qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Si vous lisez le livre des Proverbes, au commencement, vous verrez que il est parlé de la crainte de l'Éternel. C'est cherche et tu apprendras la crainte de l'Éternel. C'était un but que Salomon proposait et disait, tu auras la crainte de l'Éternel. C'est là, c'est le but, le vrai but d'un chrétien, d'avoir cette relation tellement personnelle avec Dieu que on est passé à côté de Dieu. Et quand quelqu'un a eu cette proximité de Dieu, cette intimité avec Dieu, il n'est plus jamais le même. C'est, vous avez quelques hommes, vous avez Moïse et vous avez Élie. Ces deux hommes, Dieu est passé à côté d'eux et il y a un tremblement qui les a saisis. C'est quand Jean a vu Jésus, le Seigneur Jésus qui côtoyait pendant 3 ans et demi sur cette terre, il a rencontré, il est tombé à ses pieds. C'est, il a rencontré le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Et à ce moment-là, il est tombé à ses pieds. C'est quand on a connu cette proximité de Dieu que l'on n'est plus le même. Il y a quelque chose de changé. C'est, on n'appelle plus bien ce que le monde appelle bien. On n'appelle plus juste ce que le monde appelle juste. Ou mauvais ce que le monde appelle mauvais. C'est, on connaît Dieu vraiment. Et on peut dire, Dieu me connaît par mon nom. C'est, vous savez, il y a des moments où vous découvrez quelque chose de Dieu et vous êtes terrassé, hein. C'est, je peux vous dire, il y a des moments où vous lisez dans la parole de Dieu, c'est comme un trait de lumière. Vous dites, mais, et vous tombez à genoux, hein, parce que vous ne pouvez pas rester debout. Vous êtes obligé de fléchir le genou et de dire, mon Dieu, tu es si grand et moi si petit, et tu prends la peine de me parler à moi et de me dire des paroles aussi belles, aussi puissantes, où tu m'inclus toi et moi, et tu parles de toi et tu parles de moi en même temps. Mais qu'est-ce que je suis pour que tu m'interpelles de cette manière-là et que tu m'appelles par mon nom? C'est quelque chose, vous savez, que ce sont des moments merveilleux, extraordinaires, où quand nous avons ce respect de Dieu et cette vraie recherche de Dieu, eh bien Dieu vient au-devant de nous et il nous parle et il nous dit quelque chose. C'est alors parfois il va vous révéler c'est son amour. D'autres fois, il va révéler sa justice. Je me rappelle d'une dame, le Seigneur lui a révélé sa sainteté. Elle n'était pas sauvée. C'était une enfant d'Israël. Elle lisait le Lévitique parce qu'en tant qu'enfant d'Israël, elle ne pouvait pas faire autre chose que de lire l'Ancien Testament. Et elle lisait le Lévitique et elle a lu « Vous serez saints car je suis saint ». C'est répété plus d'une fois dans le Lévitique. Et là, je peux vous dire, c'est elle qui me le raconte. Et elle m'a dit « Je suis tombée à genoux et j'ai adoré Dieu ». Elle a dit « J'ai compris que Dieu était saint et que toute ma pratique de la loi judaïque ne pouvait pas suffire ». Et elle est devenue chrétienne. Elle avait besoin de bien plus que de pratiquer des lois devant un Dieu si saint. Mais nous, nous prononçons des mots. Nous disons Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est tout-puissant, Dieu connaît toutes choses, Dieu, etc. C'est très beau. Mais dans la réalité, est-ce que nous connaissons vraiment ces choses-là? Nous les connaissons simplement en théorie. C'est, je peux vous dire. Je vais vous parler un petit peu d'une expérience personnelle. Je l'aime bien. C'est pour ça que je la raconte. Et ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu. Mais j'avais lu et appris par cœur Galates 2:20. Parce que je pensais que Galates 2:20 était un verset très important pour moi, pour ma vie chrétienne. Mais je ne le saisissais pas. Alors, comme je voulais l'avoir toujours présent, je l'ai appris même dans plusieurs versions pour avoir plusieurs aspects de ce verset. Et alors, pendant des années, je l'ai récité même plusieurs fois par jour. Puis après, bon, comme beaucoup de choses, on oublie et puis on ne pratique plus aussi souvent. Et un jour, je lisais dans un livre de méditation juste une petite phrase. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et je peux vous dire, ce jour-là, je suis tombé à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'aimes tant que ça. C'est pourtant quelque chose, vous le lisez, c'est une vérité. Moi, elle m'a touché, elle ne va pas vous toucher. Hein, vous l'avez entendu peut-être des dizaines de fois. Mais ça a été un moment de grâce de la part du Seigneur. Je me rappelle un autre jour, c'était juste avant un culte. J'ouvre ma Bible, j'ai l'habitude de lire un ou deux versets avant le culte. Et le Seigneur Jésus a mis le comble à son amour pour eux. Et je peux vous dire, il m'a brisé à nouveau. J'étais vraiment complètement retourné. Et le culte a été un moment difficile parce que j'étais très très troublé au fond de moi-même. Il y avait une grâce merveilleuse et j'étais entouré de tout le monde et j'avais envie de pleurer tellement Dieu, j'étais conscient de son amour et de son immense amour pour moi. Un amour inlassable, un amour sans fin, un amour qui nous dépasse au-delà de toute mesure. C'est, même en parlant encore, eh bien, après des mois, et même pour la précédente expérience, ça faisait des années, eh bien, encore, je suis ému de ce que Dieu nous aime tellement, tellement. C'est pour cela que quand vous lisez la parole de Dieu et quand vous lisez quelque chose sur Dieu, vous avez ce que vous comprenez et qui est la vérité absolue, hein, s'il n'y a aucun problème, mais il manque la plupart du temps que Dieu vous le dise lui-même. Vous savez que Dieu est le Dieu de toute grâce. C'est le Dieu d'amour, le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu tout-puissant. Vous avez beaucoup de qualificatifs sur Dieu. Et c'est tout cela est vrai. Même Paul disait, aussi vrai que Dieu est fidèle. C'est pour vous épargner que je ne suis pas venu. Hein. La fidélité de Dieu, hein, digne de foi, c'est un des titres de Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle dans ses promesses, mais il est fidèle dans ses menaces aussi. Il est fidèle dans son amour, mais il est fidèle dans ses jugements. Et c'est peut-être que Dieu vous parlera un jour de sa fidélité dans sa grâce et dans ses promesses et dans son amour et dans toutes ces choses. Mais il peut vous parler aussi de sa fidélité dans ses jugements. Je me rappelle l'histoire de cet homme. Dieu lui avait montré combien il était juste. Et le pécheur va en enfer. Et je peux vous dire que cet homme-là a été bouleversé, changé totalement. Et tout son message de l'évangile a été bouleversé. Et il prêchait l'évangile et prêchait sur l'enfer avec des larmes. Et il y avait un de mes professeurs, un jour un étudiant est venu et lui a dit, je vais prêcher sur l'enfer. Il a dit, tu ne prêcheras pas sur l'enfer. Il a dit, mais c'est le message que j'ai préparé. Je vais prêcher sur l'enfer. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et le professeur lui a dit, tu ne peux pas prêcher sur l'enfer. Parce que l'enfer, c'est pour l'éternité. Les damnés ne sortent pas de l'enfer. Tu ne peux pas prêcher sur l'enfer avec un sourire. C'est une chose terrible que d'aller en enfer. Il n'y a pas de retour possible. Et c'est quelque chose, vous savez, quand on connaît Dieu. Donc je vous ai donné tous ces exemples, j'ai passé tout cela pour vous montrer qu'à quel point il y a une connaissance superficielle. Et si vous acceptez une connaissance superficielle de Dieu, alors vous serez toujours pauvre spirituellement. Mais vous devez désirer davantage, aller plus loin, connaître Dieu vraiment. Parce qu'il veut se révéler, mais il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de ceux qui le cherchent vraiment. Si vous ne agissez tièdement et que vous n'êtes pas aussi motivé que cela, eh bien, vous aurez la connaissance intellectuelle de Dieu. Et elle vous suffira. Mais si vous voulez vraiment avancer avec Dieu, alors il vous montrera des choses. Mais parfois, ce qu'il va vous montrer, c'est vous-même. Et il va vous montrer votre cœur. Il va vous montrer ce que vous êtes. En cherchant Dieu, vous cherchez la lumière. Et la lumière, elle éclaire même les recoins les plus obscurs de votre vie. Si vous découvrez la sainteté de Dieu, vous allez voir que même vos petites paroles que vous n'avez jamais pensé qu'elles étaient mauvaises, vous verrez à quel point elles sont déplacées. Et nous on n'appelle pas tout péché, hein, mais sous le regard de Dieu, de la sainteté de Dieu, c'est ce qui pour nous, est sans aucune importance, devient très grave, parce que c'est Dieu. Et nous ne sommes que des humains. Nous sommes tout petits, nous sommes faibles. Nous avons tellement besoin de Dieu, tellement besoin de sa présence, tellement besoin qu'il nous éclaire, qu'il nous montre, qu'il nous guide, qu'il nous conduise. Ça, c'est le plus important. Si nous n'avons qu'une croyance en Dieu, eh bien, nous sommes pauvres. C'est ce que nous lisons pour l'église de la Odyssée. C'est une église qui se croyait riche. Elle était riche parce qu'elle avait des biens et elle avait une certaine opulence et beaucoup de facilité, beaucoup de biens matériels et de personnes qui la composaient qui étaient riches. Mais le Seigneur Jésus dit, tu es pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu. Et c'est malheureusement, nous sommes dans une période de notre histoire, de l'histoire de l'Église, où on pense que l'on a tout, que tout va bien. Mais nous devons comprendre qu'il y a mieux, il y a plus, il faut aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter simplement à ces choses superficielles, mais il faut entrer dans les profondeurs, il faut rentrer dans les grandes eaux, il faut avoir le courage d'aller sur la haute mer. Nous avons l'habitude de manœuvrer un bateau côtier. On visite les côtes. Mais Dieu veut que nous allions en haute mer. Et là, c'est là que sont les marins, pas sur les fleuves et sur les rivières. Hein. Dans la vie chrétienne, c'est comme cela. Dieu veut que nous allions plus loin, toujours plus loin.